Et sur 213 Rock, sur la radio Vinyl Times, le Classic Rock Radio, en direct avec nous, comme tous les lundis soirs, maintenant et ce soir, bien évidemment, c'est la reprise, c'est Madame Rock. Hello, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, bonsoir toute seule.
Ouais.
Et d'habitude c'est bonsoir tout le monde.
Oui mais j'ai pas eu encore, parce que j'ai pas répondu pourquoi ça allait, et après j'allais demander.
Ah bon, on la recommence. En direct avec nous ce soir, Madame Arock, bonsoir toute seule.
Bonsoir Arock, tu vas bien?
Ouais, et toi ça va, tu vas bien?
Ça va, et tout le monde à la maison, ça va bien?
Rock and roll.
Ouais, j'espère que ça répond.
Ouais, ça va, les gens sont connectés, ils sont là ce soir, là. Écoute, ils nous écoutent, c'est génial quoi. Allez, les news, parce que je crois que là il y en a un paquet quoi.
Ouais, il y a des trucs un peu fun, un peu... Moi j'aime bien en ce moment, c'est cool, j'ai découvert plein de trucs sympas. Donc je suis en forme. La première pour ce soir, c'est le... j'aime bien le petit concept qu'a Metallica sur sa tournée de faire une petite reprise sur chaque date.
Ouais.
Et donc je trouve ça marrant parce qu'en France ils avaient repris Johnny Hallyday, bon ça avait fait marrer tout le monde. Mais là du coup ils se sont fait plaisir, ils ont repris du Rammstein en Allemagne. Donc je trouve ça marrant de voir Robert et puis Carcamet se faire des petites reprises à la One Again un petit peu tous les soirs en tournée. Je trouve ça marrant de voir des mecs avec des pointures pareilles qui font des reprises en fait, je trouve ça vraiment cool. Et j'aime bien ce petit côté en famille quoi, tu sais, on tape le bœuf, voilà. Et puis j'ai cru comprendre que Kirk avait un projet justement avec toutes ces reprises-là de faire quelque chose, donc je trouve ça assez marrant, ils sont en train de monter un truc, j'attends de voir, mais je trouve ça chouette de voir des mecs qui se lâchent un peu et qui redeviennent, tu sais, les gamins dans leur garage qui tapent le bœuf et qui s'amusent en fait. J'aime bien le côté, il n'y a pas que le business carré des chansons qui sont travaillées au millimètre, à la seconde, voilà, j'aime bien ce petit côté un petit peu, un peu crade. Un peu parce que bon, on avait vu sur les images à Paris, on voyait justement qu'ils jouaient sur des partoches et tout. Je trouve ça marrant justement qu'ils retombent un petit peu en enfance, de s'amuser, de taper le bœuf et de rendre hommage à leur groupe, à leurs copains, à leurs influences. Je trouve ça sympa.
Ouais. C'est savoir que Metallica a repris Kirk et Robert, ils ont repris du Maiden, je crois, en Angleterre.
Mais ouais, c'est ça. Enfin, c'est génial.
Ouais, c'est génial.
Moi, je trouve que c'est des supers images de partage, de culture musicale. Ce que tu dis, normalement, c'est les autres qui reprennent Metallica. Et voilà, je trouve que c'est marrant que ce soit Metallica qui reprenne les autres.
Voilà. Ouais, mais tu connais la différence, quoi. C'est-à-dire que quand les autres reprennent du Metallica, bon, bah, c'est bien. Mais quand Metallica reprend par exemple, du King Diamond, King Diamond a touché ses royalties. Ça veut dire que l'ensemble de ce qu'a fait Metallica, c'était encore plus que tout l'ensemble de la carrière de ce qu'a touché en tune King Diamond, quoi. Donc, en fait, tout le monde souhaite que Metallica reprenne un de ses titres, quoi.
Mais c'est génial. Moi, hors business parlant, moi, je trouve ça cool. Voilà.
Ouais, c'est pour ça que business, ils font attention quand même quand ils font une reprise, hein, surtout quand ils la sortent sur CD, quoi.
Tu m'étonnes. Ouais, non, mais là, c'est le bœuf en tournée pour faire plaisir aux fans.
Ouais.
Et je trouve que c'est sympa comme surprise sur la tournée. Je trouve que c'est marrant qu'il y ait des gens qui, voilà, qui se lâchent et puis qui s'amusent. Et puis, c'est pas parfait comme le reste du set, mais ils se sont amusés comme des gamins en vacances et je trouve ça sympa. C'est le côté camping de la tournée, je trouve ça marrant.
D'accord, allez, suivante.
Voilà. Et bah, écoute, depuis quelques temps, on parlait de notre petit coup de cœur là avec Geoff Tate, le Sweet Oblivion.
Ouais.
Et puis alors, j'ai découvert un truc assez marrant, c'est que, en fait, ils se sont jamais rencontrés.
Oui. En fait, jamais. Non, c'est par email, oui, par message WhatsApp.
Ouais, ouais. Et ils disaient, ils se sont même pas parlé au téléphone. Tout s'est fait que par discussion, soit messagerie instantanée, soit mail. Donc c'est quand même assez c'est assez incroyable comme expérience musicale et ça a du coup fait beaucoup triper Geoff Tate de se dire que un album aussi beau, aussi abouti où tu as une sensibilité, parce que bon, on est tous d'accord pour dire que c'est un super album de Queensryche qui a été composé et c'est génial de se dire que ça a été composé et interprété par deux mecs qui ne se sont jamais vus en face ni parlé directement, donc qui n'ont pas pu échanger des émotions justement comme un groupe qui s'installe dans une pièce et qui tape le bœuf pendant des semaines pour trouver l'inspiration pour composer, où on est censé dire oui, on sent qu'il y a eu une connexion, il s'est passé un truc.
Ouais, non, mais attends.
Voilà.
Ouais.
Et puis là, je trouve que c'est assez marrant du coup d'être sur un truc totalement à l'opposé dans le côté froid de la composition, quoi. Le mec, il compose, c'est une machine, il envoie les trucs, l'autre, il pose sa voix. Je trouve ça assez marrant.
Ouais, mais attends, Simone Mularoni, c'est pas un nouveau venu, quoi, tu vois. C'est quand même une personnalité en Italie. C'est un mec qui a été élevé à la Queensryche, c'est-à-dire qu'il adore, il est fan de Chris de Garmo, ça s'entend tout de suite. Voilà.
Et c'est ça, c'est ce qu'il disait. De toute façon, ils ont été mis en contact par la maison de disques, hein, par Frontier Records. Et moi, je trouve ça vraiment marrant de voir comment ils ont pu aboutir à quelque chose de léché, de soigné, aussi abouti, ouais. Sans qu'il y ait eu la connexion humaine. Tu vois, on est juste sur une connexion musicale, là. On est sur quelque chose... degré différent.
Je te rappelle que t'étais là et que je suis pris la tête avec Geoff Tate à cause de ça en février 2001, je sais plus quoi.
I remember now.
Tu t'en souviens quand même. Tu t'en souviens de ça. Quand je dis, quand est-ce que tu feras un vrai album de Queensrÿche, t'imagines toi, il a fallu. Et là ce soir, tu me racontes cette histoire. Enfin, toi, tu la connais l'histoire aussi, mais tu racontes cette histoire de Suite Oblivion comme ça en marrant et tout. Ouais, c'est. Je te rappelle que drôle d'histoire avec Geoff Tate quand même. Hein.
Je sais.
Ben voilà, t'étais là. Donc tu sais quoi. Donc. Geoff Tate qui fait ça et qui dit ça, ça me, je sais pas. Ouais. Alors que lui, qu'il a toujours dit non, ça m'intéresse plus. Je vais de l'avant, je fais la musique que j'ai envie. Et puis voilà quoi. Non, bah enfin bon, bref quoi. C'est.
Ouais. Mais alors moi, tu sais, bon, on avait déjà eu la discussion à l'époque, mais moi, je objectivement, j'aime quand les groupes évoluent dans leur musique.
Ouais.
Tu vois, contrairement à, il y a des groupes. Bah, moi, je suis pas pour le coup une fan de Maiden. Il y a des groupes comme ça que je suis de loin, mais sans être fan. Parce que moi, quand on me ressort le même album,
ACDC.
Les mêmes tempos, ouais, en fait, ACDC, bon, y a des tubes, mais ça peut très vite me gaver, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même.
Mm-hmm. Bah, ACDC, ça évolue, mais c'est toujours la même chose, ça évolue dans la même chose, en fait, c'est ça le truc.
Voilà, et quand on me dit que les gamins d'Airborne, ouais, ils ont copié ACDC, tu fais bah ouais, mais en même temps, ACDC un jour ils m'ont arrêté. C'est cool qu'il y ait des gamins qui prennent la relève. Ils ont jamais craché dans la soupe, les mecs d'Airborne. Ils assument totalement qu'ils font du ACDC revu et corrigé par des gamins. L'inspiration elle est assumée. Mm-hmm. Mais moi, à la limite, je trouve ça cool de me dire que dans 10 ans, si ACDC tombe plus, Airborne tournera, on aura des mélodies, des rythmiques qui se ressemblent, et on continuera à mettre le bazar et à sauter partout. Ce sera cool.
Toi, décidément, dès que tu mets le bazar en concert, t'es là, toi, ça c'est clair.
Mais c'est vrai que moi, j'avais eu cette discussion-là avec les membres de Queensrÿche sur la tournée de Tribe.
Ouais.
Et je leur avais posé la question, je me rappelle encore, ça les avait scotchés à leur fauteuil. Je leur avais dit, les premiers albums avaient ces titres. Queen of the Reich, quand même. Bon, le terme, il est quand même assez connoté.
Queen of the Reich, ouais, ouais.
Mm-hmm. Tu vois, il est quand même le mot Reich, il est quand même connoté. Après, il y avait Rage for Order. Tu vois, il y avait des titres qui étaient quand même très rigoureux. Là, là. Et là, vous nous sortez un album qui s'appelle Tribe. Tribe, on est quand même dans quelque chose de sauvage, quoi. La tribu, on n'est plus dans l'ordre, je dirais, militaire et dictatorial. On était dans quelque chose de sauvage.
Alors...
et de voilà. Et je leur avais demandé s'ils le ressentaient eux dans leur façon de composer, que avant ils étaient quelque chose de mécanique et là ils s'étaient un peu plus lâchés humainement et ils étaient un peu sur le cul de voir l'interprétation que j'avais juste avec les titres des albums quoi.
Bah en fait pour répondre à ta question celle-là je connais cette réponse. En fait, Geoff Tate à cette période entre 85 et 88, il avait été passionné par le livre de George Orwell quoi, 1984 ouais. Et donc il avait vraiment travaillé dessus et il était passionné par ça quoi. Et donc ouais. Du coup ça a donné naissance à Operation Macomb bien évidemment, mais l'inspiration ouais. est arrivée depuis Rage for Order hein, notamment oui. Et
mais c'est vrai que quand tu réfléchis, tu regardes les titres des albums quoi, Empire,
c'est après ça,
Rage for Order, mm-hmm. T'as quelque chose de rigoureux, de droit, de carré, tu sens qu'il y a une
il y a un ordre politique. Oui, il y avait un ordre politique en fait. Il y avait un ordre politique à l'époque. Exactement. Où Geoff Tate s'était fait l'écho il dénonçait effectivement la politique de Ronald Reagan à l'époque président des États-Unis. Et Geoff Tate était dénoncé à travers donc les chansons tout cet ordre, tout ce que l'Amérique subissait effectivement. Et donc Geoff Tate à l'époque, il dénonçait ça et c'était assez rigoureux quoi.
Et là c'est rigolo justement d'avoir eu cette discussion sur le côté tribu où t'avais le côté plus sauvage, plus spontané, plus, enfin tu vois, il y a des mots que t'associes forcément à Tribe. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui de voir qu'il est reparti dans un truc qui est totalement aseptisé, numérique, digital. Bon, il avait déjà pris l'habitude de screaming digital avant.
Voilà, c'est bon. tu t'es bien retombé. Ouais.
C'est placé. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est rigolo, quoi. Tu vois, de voir les étapes et les processus mm-hmm. en fonction des époques et des technologies dont on peut bénéficier. C'est assez sympa. Donc, moi, j'ai bien aimé cette façon.
Ouais.
Effectivement, il y a des. Voilà, c'est assez marrant. Puis oui, des artistes qui sont chacun sur leur continent, qui arrivent à te pondre un truc aussi génial. Moi, je trouve ça chouette.
Ouais, l'album est chouette, effectivement. Je te dis, oui, l'album est très chouette, effectivement. Ouais. Allez, troisième petite news. Alors, le thème, je te l'avais dit, je te l'ai balancé comme ça cette semaine, je t'en ai parlé.
Ouais.
L'utilisation de téléphone portable en concert, pour ou contre?
Alors, il y a eu.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Partager. Ouais, moi, je suis partagée. Mmh. Je suis partagée.
Moi, je suis pas partagée, je suis vraiment pour.
Toi, tu es vraiment pour ?
Ouais, je suis
alors,
pour.
Alors, je vais te donner deux exemples. Mmh. Je le fais. Mmh. Je filme. Alors, j'ai arrêté de faire des photos parce que, bon, pour ceux qui le savent et que ceux qui le savent pas, moi, j'ai été photographe donc chez Hard Rock Magazine pendant quelques années. Et j'avoue que j'ai pris goût aux belles photos au premier rang, sans les têtes devant, sans les téléphones levés. C'est lui et moi et personne entre l'artiste et le photographe. Quoi. Quand j'avais l'appareil devant l'œil, pour moi, le concert, il était que pour moi. Il n'y avait personne d'autre dans la salle. Quoi. C'était un luxe que j'avais. Et j'avoue que maintenant, faire une photo depuis 10 ou 15 mètres derrière avec des pimpins devant, ça ne m'intéresse plus. Mm-hmm. Et je préfère, bah, grâce aux réseaux sociaux, j'avoue, de temps en temps, je vais télécharger 3-4 photos, je me les développe. Je sais que c'est le souvenir fait par quelqu'un d'autre, mais du concert auquel j'ai assisté. Mais j'ai quand même des belles lumières, un beau cadrage. Et je dirais, grâce à ces photographes, une place privilégiée du souvenir, tu vois, je vais pas me retrouver avec un petit point qui se balade sur scène et de dire le petit poids que tu vois là, c'est Drayman pendant le concert de Disturbed, ça m'intéresse pas. Quoi. Mm-hmm. Donc du coup, je chope quelques jolies photos qui partagent eux sur leurs réseaux sociaux, puis je suis contente d'avoir de beaux souvenirs. Par contre, j'avoue, en vidéo, j'aime bien partager les instants qui pour moi vont m'émouvoir parce que je sais que j'ai des copains qui sont pas forcément au concert mais qui auraient aimé y être et je me fais un peu pas le messager, mais je partage. C'est ce sens, c'est pas parce que je sais que je les re-regarderai pas forcément chez moi. Mmh. À titre perso, on est tous d'accord pour dire que autant on peut regarder des photos, autant des vidéos, on les regarde pas si souvent que ça. Par contre, je sais que partager sur les réseaux, parce que je sais qu'il y a des potes qui sont à la maison, qui sont dans un autre pays ou qui sont au taf tout bêtement hein, et qui n'ont pas pu venir. Je sais que ça leur fait passer un petit moment sympa. Ils vivent l'expérience avec moi. Ils sont contents que je partage cet instant. Et puis, pour avoir eu le retour deux ou trois fois, il y en a qui ont apprécié de savoir que sur cette chanson-là, tu sais, bah, c'est le truc entre potes, de dire « Ah, sur cette chanson-là, t'as pensé à nous, quoi, tu vois. Mm-hmm. » Que j'étais pas toute seule dans la salle. C'est comme s'ils avaient été à côté de moi pendant le concert et voilà, ils sont de l'autre côté de l'écran mais je regarde la chanson avec eux. Donc c'est plus sur cette notion de partage. Et j'avoue que je ne regarde pas par contre la vidéo pendant que je filme. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me cale, je mets l'écran sous mon menton. Les gens regardent la scène mais moi je regarde le live, je regarde pas sur l'écran. Alors qu'effectivement, il y a toujours un paquet de monde que tu vois regarder le concert à travers leur écran de téléphone et ça je trouve ça assez pathos quoi. Tu dis voilà, tu y es, tu regardes en vrai, quoi. Tu regardes au-dessus, tu regardes à côté, mais tu regardes pas ton écran pour regarder le concert qui est 10 mètres devant toi, quoi.
Mmh. Oui, alors, donc je te disais, moi je suis pour parce que c'est des archives en fait. Alors je vais te donner un exemple qui est quand même assez majeur. Moi je me souviens à l'époque des concerts de Metallica où Lars Ulrich encourageait tout le monde, mais tout le monde à faire des bootlegs des concerts de Metallica.
Ouais.
Parce que Lars Ulrich avait été visionnaire quand même, parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre ces archives-là, c'est-à-dire que chacun avait un bout de Metallica chez lui, du concert qu'il avait. Et tout ça, ça s'est retrouvé sur YouTube. Et aujourd'hui, Metallica sur YouTube, c'est gigantesque en termes d'archives, quoi, tu vois. Ouais. C'est gratuit, c'est, voilà, tu peux regarder ça comme tu veux, alors que tu veux, ce que tu veux, et t'as toutes les époques. Voilà. Ouais. T'as toutes les époques. Et voilà, toutes les archives sont gratuites et elles sont données. Et ça avait commencé par Cliff Hamill, à l'époque, avec la cassette VHS, la fameuse cassette où ils avaient compilé, enfin, leur première période. Et puis ensuite, par la suite, d'autres vidéos sont arrivées, mais aujourd'hui, tout est compilé, tout figure sur YouTube. Et en fait, chaque fan possède quelque chose de son groupe dans son téléphone. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Le mec, il vient au concert et, alors je sais que parfois, ça gêne certains artistes, hein, ça a gêné Rob Halford, ok, ça a gêné Geoff Tate, ok, je peux comprendre. Mais il y a pas que, ça a gêné aussi récemment Ray Alder, le chanteur de Face Warning, qui avait dit, ouais, je suis pas très content que les fans filment. Mais bon, à un moment donné, c'est aussi les fans qui font vivre les artistes. Faut pas oublier que le marché a totalement changé. Aujourd'hui, ce sont les fans, les auditeurs, enfin, qui font vivre le business. Et que chaque personne aimerait avoir un bout de ce qu'il a vu, donc c'est un peu, ça rejoint un peu ton style de photo que tu as dit, dans son téléphone, quoi. Et lorsque le matin tu pars au bureau, tu vas dans le train, tu pars au lycée, enfin tu pars dans ton lieu de tous les jours, bah tu retrouves un peu de ce concert là une photo et tu dis, ah ouais, c'était génial ce show, j'ai adoré. Alors, et ça reste avec les archives.
Je vais te faire rire sur deux expériences qui sont reliés à tout ce que tu viens de dire. Mm-hmm. J'ai une première expérience, c'est que moi, quand j'étais gamine, le premier groupe dont j'ai été fan, c'est Dire Straits. Mm-hmm. Je suis une grande fan de Mark Knopfler. Mm-hmm. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a une grosse quinzaine d'années. Et à la fin de l'interview, je me suis payé le culot, chose que je faisais jamais parce que pour moi j'étais dans le boulot, mais ce jour-là c'était mon héros. Je lui ai fait signer mes albums. Et je me suis payé le culot de lui faire dédicacer les albums officiels. Et une fois qu'il a eu fait la 10-12 d'albums officiels, je lui avais collé tous les bootlegs en dessous.
Ah.
Et donc, j'ai tous les bootlegs de l'époque de Dire Straits qui sont signés par Mark Knopfler.
Ah bah c'est bien. Et mais il est signé.
Ça l'avait fait rire. Ouais, parce qu'il m'avait dit, écoute, qu'est-ce que je te dise de plus, t'as tous les vrais et t'es en manque de musique et t'as les autres, donc c'est rigolo quoi. Il savait que j'étais une vraie fan parce que j'avais encore un besoin de musique, d'expérience, de vivre sa musique, donc ça avait été marrant. Donc ça c'est une première chose. Et deuxième truc, j'ai un souvenir, alors c'est tout début des téléphones portables, j'ai un souvenir d'un fan à la loco sur un concert de Free Kitchen qui faisait écouter le concert depuis son téléphone portable. Et à un moment, comment qu'il s'appelle, Mathias Eklund, a pris le portable, et puis il a demandé au gars dans la fosse, comment il s'appelle ton pote? Alors il a dit bonjour au copain au téléphone, et puis il dit, bah allez, je fais le morceau avec toi. Et il avait utilisé le téléphone pour faire tout le titre. Tu veux dire, t'es aux premières loges.
Ouais.
Voilà. Et je vais partager un dernier souvenir, parce que il y a quelques années de ça, c'était sur la tournée de Tribe. Hein. Il y avait une photographe qui était partie en Angleterre faire le concert de Queensryche, et elle a appelé, son alter ego, fan de Queensryche à l'époque, depuis Londres.
Ah ouais, je m'en souviens très bien.
Tu t'en rappelles?
Je m'en souviens très bien.
Elle l'a appelé, puis elle lui a dit, écoute, je te pose sur la tablette du balcon, et quand t'en as marre, tu raccroches. Et il a pas raccroché, il a écouté le concert en entier, parce que le son était plutôt pas mal. Et quand elle a reçu sa facture, elle lui a fait écouter pour 180€ de concert, parce qu'à l'époque, on n'était pas en illimité depuis l'Angleterre.
Ouais,
pense que c'est le concert le plus cher. Ouais.
Ouais, je te dois 180€, c'est ça?
Non, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu te faire, je pense.
Ah, c'était bien, ouais. Je me souviens qu'on sert à Londres et tout. Ouais,
mais j'avoue, j'aurais jamais pensé que t'écouterais tout en entier.
Ah là, 180€, c'est vrai que ça fait cher. Enfin bon.
Mais t'imagines, aujourd'hui, la même expérience, effectivement, on le fait avec un Facebook Live, c'est gratuit.
Bah oui,
et on le partage avec tous nos potes, avec la terre entière. C'est ça qui est drôle pour boucler la symbolique de partager un concert avec un téléphone. Il y a 20 ans, ça coûtait une fortune et il n'y avait qu'une seule personne au bout et c'était éphémère. Et aujourd'hui, ça reste. Quoi.
Ouais. Bah écoute, dernier sujet de la soirée, on va parler du rock, du Rockin' Mill, du Rockin'.
Ouais.
Et donc pour ça, on a un autre pote qui s'appelle Nicolas Duff,
ouais.
qui a participé, qui a joué notamment.
Exactement. En fait, il a fait les qualifications comme on.
Ouais.
Audition. À Paris pour participer à ce concert incroyable, puisqu'en fait ils ont auditionné 250 guitaristes, 250 bassistes, 250 batteurs, 250 chanteurs, qui ont joué devant 45 000 personnes au Stade de France.
Ouais.
Et voilà, je veux dire, quand tu t'appelles Muse, que tu t'appelles Metallica, que tu t'appelles AC/DC, que t'es 45 000 personnes au stade, c'est cool. Mais quand tu t'appelles Monsieur Lambda, Mademoiselle Lambda, et que c'est toi qui es dans la fosse et que tu as 45 000 personnes et les téléphones qui s'allument justement de leur petite LED pour te faire une voie lactée de lumière quand tu es en train de jouer. C'est juste une expérience incroyable. Et justement, voilà, on a un ami commun qui a fait ses auditions et qui a vécu cette expérience. Et on va l'appeler pour qu'il nous raconte ce trip ultime qu'il a vécu de jouer devant 45 000 personnes au Stade de France.
Ouais, bah tu sais quoi, il est avec nous en direct là. Il est là.
Yes.
Salut Nico.
Yes.
Ça va bien?
Ça va, tu vas bien?
Super.
Ouais, vous m'entendez bien?
Ouais, très bien. Nickel. On t'entend bien.
Bon.
Tu nous entends bien?
Ouais, je vous entends bien, ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Eh ben écoute, déjà, bienvenue ce soir donc en direct sur la radio Vinyl Times, le Classic Rock Radio dans l'émission 213 Rock. Déjà, bienvenue, monsieur.
Merci.
Ouais, ça doit faire 155 ans que je t'ai pas vu, mais bon...
On s'est vu il y a un an et demi quand on a vu Angel Vivaldi et...
Ah oui. Et comment il s'appelle le guitariste, Andy James. Exact. Et ouais, ok. Donc bah, ce soir, écoute, on t'a invité parce que Fred, enfin, Colette m'a demandé, ouais, elle me dit, ouais, enfin, Madame Aranc me dit, ouais, il y a Nico, il était au concert de Rockin' Mill et tout, faut absolument qu'il en parle et tout, et bah, c'est pour ça qu'on t'a invité ce soir. Donc justement, pour quelles ont été tes démarches et surtout, qu'est-ce qui t'a impressionné, quoi, sur ce projet, quoi.
Alors attendez,
quoi,
juste avant de lancer tout ça. Je voudrais aussi, quand même, avant qu'on démarre, de dire que Nicolas, il est auteur, compositeur, interprète d'un projet qui s'appelle Julia's Last Day.
Oui, mais après...
Il y a un EP. Et ça, je voudrais qu'on en reparle à la fin, avant qu'on se quitte du Stade de France. Parce que, voilà.
D'accord. Et ben, il le fera à la fin, sans problème.
Bon. Yes.
Ça marche. Bon, alors si on vient sur le Rocking Mill, en fait, moi, j'avais entendu parler de cette histoire avec les Foo Fighters, là, où ils étaient pas, où ils faisaient une tournée mondiale, ils passaient pas par l'Italie, et il y a un mec qui a décidé de mettre 1000 musiciens pour reprendre un morceau des Foo Fighters. Vous l'avez vu, ce truc-là, non?
Ouais, ouais.
Ça fait plus de 60 millions de vues, je crois, enfin, un truc vraiment génial et tout. Et en fait, ils ont fait ce truc-là, et ça a été un truc incroyable, et ils ont décidé, en fait, d'essayer de le pérenniser en faisant quelque chose. Mais bon, moi j'en étais resté là, ça date d'il y a quelques années, voilà. Et en décembre dernier, je tombe sur un article sur internet, Philippe Manœuvre, le spécialiste du rock'n'roll en France, le mec qui a connu les Rolling Stones en 71.
En plus, il limite.
Ouais. Et en fait,
on peut faire croire qu'on a Philippe Manœuvre avec nous en quatrième voix sur l'interview ou pas?
Je peux te faire toutes les voix, moi, de Patrick Sébastien à Philippe Manœuvre.
J'adore.
Et donc, je lis cet article et je dis, ouais, ça a l'air plutôt sympa ce qu'il veut faire. Mais très honnêtement, je me dis, putain, mais comment il va remplir le Stade de France avec un truc pareil? Bon. Et donc, il dit, bah voilà, mettez-vous sur l'application Rocking Mill et envoyez une vidéo et puis il y a un petit casting vidéo, on choisira ceux qui savent jouer et tout, machin. Bon. Donc, moi, j'ai envoyé en décembre ma vidéo où je reprends le solo de Runaway de Bon Jovi. Donc, voilà, je trouvais que c'était assez rock'n'roll et je pouvais envoyer ça. Et là, ils me disent sur l'application, inscrivez-vous, machin, j'envoie la vidéo et puis ils disent, bon, ben, vous êtes cinquième sur la liste d'attente. Je dis, bon, putain, cinquième sur la liste d'attente, c'est bon, il doit y avoir 30 000 personnes, je verrai jamais le truc. Et en fait, une semaine après, boum, j'étais dans les sélectionnés. Et là, c'est vachement bien fait, en fait, parce que dans l'application, il t'envoie, en fait, tout ce qui est logistique, tout ce qui est, enfin, toutes les infos et tout ça, et notamment une partie tutoriel où il y a tous les morceaux qui arrivent au fur et à mesure avec les tablatures, avec des vidéos pédagogiques pour tous les instruments, pareil, quoi. Donc, ils avaient fait vraiment un gros truc, vraiment sympa. Et résultat.
18 titres, c'est ça que vous aviez à bosser.
19, ouais. On 19, a eu 19 ouais. titres qu'on nous a envoyés, en fait, entre février et mai, en fait. Donc, on n'a pas trop de nouvelles de février à mai, si ce n'est quelques infos, on va dire, plutôt pratiques. Est-ce que vous avez besoin de louer un ampli si vous voulez pas emmener le vôtre, louer une batterie, etc., etc. Et on doit apprendre les morceaux pendant tout ce temps-là. Et donc, c'est pas la partie la plus intéressante, parce que pendant 4 mois, en fait, on fait que ça. Et en fait, on arrive en juin, et le jeudi, tout le monde a rendez-vous, jeudi, vendredi et samedi pour faire des répétitions avant le concert de samedi soir.
Au Stade de France.
Au Stade de France, exactement. Donc, voilà. Faut savoir que c'est un truc qui a été produit par le Stade de France. Hein. C'est eux qui sont venus les chercher. Hein. C'est pas une boîte extérieure, c'est eux qui ont vraiment produit le truc.
Okay.
Et donc, voilà, super bien organisé, les parkings, orientation, nickel, récupérer les amplis, parce que moi j'avais loué un ampli, parce que comme je me balade en moto, c'est compliqué de tout prendre. Donc, on loue un ampli, nickel. Et là, ils font d'abord répéter les guitaristes, ils font après répéter, d'abord les bassistes, après les batteurs, après les guitaristes. Les chanteurs sont dans une salle spéciale pour apprendre, pour répéter les morceaux. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on était 1039 musiciens, et 1039 musiciens ont chacun leur casque, avec le click track dans le casque pour jouer tous ensemble.
Wow.
Donc ça, l'organisation là-dessus, d'avoir 1000 casques qui fonctionnent bien là-dessus, moi j'étais assez bluffé, quoi. Donc ils font un click track en disant attention, c'est le refrain, c'est le couplet, comme ça personne se plante et tout le monde peut apprendre les trucs. Et voilà, pendant 3 jours, on a répété. Alors l'ambiance géniale, on rencontre des tas de personnes, on rencontre des tas de musiciens, on rencontre que des gens qui sont à moitié fous.
Aussi planter le décor, parce qu'on est, c'était le week-end, enfin la semaine de la canicule à Paris.
Ah ouais.
Vous étiez dans le Stade de France à 40 degrés, pas un courant d'air.
Et voilà. Donc pas un courant d'air. Ouais, là c'était dur parce que c'est vrai qu'on répétait entre 6 et 8 heures par jour quand même, en plein cagnard. Donc, mais bon, ils avaient des grands ventilos. Enfin, ils avaient vraiment, vraiment bien fait le truc. On avait de la bouffe, hein, on avait des tickets pour manger le midi, le soir, etc. Donc ils ont vraiment bien organisé le truc. Et puis voilà, donc on a commencé à répéter pendant 2 jours, on commence à faire pote avec les gens qui sont à côté, on commence à faire les cons.
Vas-y.
Et puis,
il a pas la censure lui quand il dit des mots interdits?
Non, mais il va falloir, par contre, on va falloir y aller parce que j'ai encore la programmation derrière.
Ouais. D'accord, okay. Voilà, on arrive.
Non, il y a quand même le samedi soir, il y a une répète déjà, il y a le grand frisson parce que t'as les lights et tout ça et tout. Effectivement, le lendemain, le samedi soir, il y a un DJ qui passe au début, il y a 50 000 personnes qui hurlent, on attend derrière, ils nous font rentrer. Et là, c'est quand même assez incroyable de pouvoir rentrer sur une scène où il y a 50 000 personnes qui hurlent et qui sont super contents de voir jouer. Et quand tu joues et que tu joues We Will Rock You de Queen ou un autre monde de téléphone ou Allumer le feu de Johnny Hallyday et que tout le monde chante, bah t'es au milieu et tu fais
c'est voilà, pas moi. T'as
un... Ouais, c'est un gros
prêt. Il s'est prêt pour Zidane.
Et tu sais quoi? Il a eu raison.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'était non, c'est bon. C'est un rêve. Ouais, je vais être très clair. Je sais qu'il y a des polémiques, comme
ouais.
Pas payer les musiciens, des conneries. Enfin bon, c'est toujours les gens qui n'y sont pas qui sont qui parlent pour les autres. Mm. Je veux dire qu'il n'y a aucun musicien qui était là. Il y avait plus de 200 Italiens parce que c'est quand même leur. Mm. Qui étaient venus avec leur, par leurs frais et tout. On sait qu'on n'est pas payé. C'est pas grave. On a tous pris un kiff monumental. Et si on me redemande de signer, ce que je ferai s'ils font l'année prochaine, ouais, je leur ferai sans problème, bien sûr. C'est
bon.
Génial. C'est un moment unique. Quoi.
Bah écoute, merci pour la précision. Sinon, donc effectivement, ouais. Tu avais un EP, c'est ça? Donc tu voulais présenter un EP. Ouais.
Alors je voulais présenter un EP, c'est.
Non, c'est moi qui veux qu'il présente. Non, non, je le piège. J'avoue, je le piège. C'est un traquenard. Bon.
Ouais, j'ai sorti un EP qui s'appelle Julia's Last Day. C'est le nom de mon projet. L'EP s'appelle Don't Wait For Me. Il est sorti en mai. Voilà, c'est un 4 titres. Il y a une reprise de Bon Jovi et puis il y a trois morceaux originaux. Et voilà, c'est dans l'esprit Art FM, assez 80 et tout ça. Voilà, c'est mon premier. Le deuxième sort à la fin de l'année avec un certain Maxence à la batterie. Voilà, on avance sur pas mal de choses.
Attends, Maxence
Pilo.
Maxence, comment il s'appelle? Oui, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom du groupe. Ah, ça y est, ça va me revenir.
Evenly,
voilà, oui, ouais, ah, je me souviens. Ok.
Back in business, voilà. Back in business.
D'accord, bon, bah écoute, voilà. Ce EP, tu pourras nous l'envoyer comme qu'on le puisse mettre chez Vinyl Times en programmation,
H24? Eh ben, je te fais suivre.
Moi, bien sûr. Ouais. Super. Écoute, Nicolas, merci beaucoup en tout cas pour le Rockin' Mill. C'est merci. Donc qui était effectivement avec Philippe Manœuvre et donc qui présentait le projet. C'est pas lui, hein. Je rappelle, c'est une boîte italienne qui est derrière, mais lui, il était juste pour présenter le projet, quoi. En fait.
Ouais, mais une vraie conscience rock'n'roll.
Ouais. Madame Maroc, merci en tout cas.
Merci à vous, les garçons. Merci à vous, les auditeurs.
T'es intenable. Madame Maroc, tu es intenable.
Bon, en tout cas, merci à vous et bonne soirée alors.
Ouais, salut Nico.
Bonne soirée à tous.
Ciao, Madame Maroc.
Ciao.
Allez, ciao, merci ciao. Encore. Allez, en direct donc ce soir sur 213 Rock, Madame Maroc ainsi qu'Olivier Legato notamment, donc il nous a présenté le Rockin' Mill, Madame Maroc les news en tout cas chaque lundi. Oui, effectivement, 30 minutes de news, 30 minutes de discussion. Ouais, elle est encore là, décidément, elle nous adore. Allez, on continue en musique avec le Will I Never, le Whitesnake sur 213 Rock, sur 213 Rock sur la radio Vinyl Times, le Classic Rock Radio, l'album c'est Flesh and Blood, Arg Melody Camaracum. Pendant 30 minutes de musique rock, ne bougez pas, il y a aussi le nouveau titre de Eclipse United qui arrive sur le 113 Rock, Arg Melody Camaracum.